Des femmes.
Des hommes.
Des droits.
Une chronique de la Ligue des droits de l'homme de l'Ain. Amis auditeurs, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle chronique. La lutte pour l'égalité homme-femme, c'est une priorité pour la Ligue des droits de l'homme. Et c'est un thème que nous abordons aujourd'hui avec Cécile Grosjean. Bonjour Cécile Grosjean.
Bonjour.
Alors Cécile Grosjean, vous êtes déléguée aux droits des femmes et à l'égalité, ce qui est un vrai programme déjà. Alors dans quel cadre vous exercez cette fonction ?
Alors moi je fais partie donc de l'organisation administrative de l'État qui est dédiée à la mise en œuvre de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Et je travaille à l'échelle du département de l'Ain dans un service de l'État qui s'appelle la Direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarités, oui. Donc qui applique toutes les politiques sociales conduites par l'État et qui travaille donc sous l'autorité de la préfète de l'Ain.
D'accord. Et alors quel est votre champ d'action ?
Le champ d'action, c'est celui de l'ensemble de la politique d'égalité entre les femmes et les hommes. Donc il y a un premier volet important qui est celui de la lutte contre les violences faites aux femmes, avec notamment un focus important depuis 2019 sur la lutte contre les violences conjugales et également le champ des violences sexuelles, avec un volet aussi sur l'accompagnement des personnes prostituées vers la sortie de la prostitution. C'est ensuite l'accès aux droits des femmes, à tous leurs droits, l'information sur leurs droits et la diffusion d'une culture de l'égalité, donc la lutte contre les stéréotypes sexistes, et puis l'accompagnement à l'autonomie économique des femmes.
Donc tout est lié, parce que pour qu'une femme donc, ne subisse pas de violence, il faut qu'elle ait aussi une certaine peut-être culture de la condition féminine et peut-être aussi un certain revenu qui lui permet d'être autonome.
Oui, tout à fait. L'autonomie économique, financière, elle est importante pour se sortir des violences, mais aussi pour avoir une vie libre, autonome, être en capacité de faire ses choix. Et puis la lutte contre les violences, c'est fondamental. On ne pourra pas atteindre l'égalité quand on aura autant de violences encore faites aux femmes. Et la culture de l'égalité, c'est une diffusion plus large qui implique les femmes et les hommes.
Les femmes et les hommes.
Tout à fait. Oui. Cette culture de l'égalité, oui. Elle doit être partagée et portée et transmise par chacun et chacune.
Sortir un peu du patriarcat.
Oui. Fonder une société plus juste, plus égalitaire, implique vraiment tout le monde.
Si on revenait à la lutte contre les violences faites aux femmes, donc il y a eu un focus qui a été fait donc lors de la journée du 8 mars. Quand une femme rentre dans un commissariat, il faut qu'elle puisse être protégée. Donc ça n'est pas toujours le cas, on l'a vu avec le cas récent de Blois. Je voulais savoir si vous pensez quand même que du fait des différentes mesures récentes, les choses se font mieux maintenant dans le département de l'Ain.
Les choses se font mieux, moi je peux en témoigner.
Comment se font-elles en tous les cas ?
Oui, je peux en témoigner. Alors c'est ma troisième année dans le département de l'Ain. Je n'ai pas un recul non plus de trop longues années. Mais ce que je peux vous indiquer, c'est qu'au niveau des institutions, il y a un dialogue quotidien. Suivi vraiment très attentif de tous les acteurs. Donc c'est évidemment les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Moi, je suis en lien avec le directeur départemental de la sécurité publique qui gère les commissariats à Bourg-en-Bresse, à Oyonnax, avec les équipes de la gendarmerie nationale.
Quel type de formation ont-ils droit ?
Il y a des formations. Chaque institution, la gendarmerie, la police nationale forment ses effectifs à la violence conjugale notamment, au recueil de la parole, à l'intervention auprès d'une victime de violence conjugale, parce que c'est une violence très particulière. Il y a un lien affectif entre la victime et l'auteur des violences. Il y a des mécanismes d'emprise qui conduisent les victimes à minimiser les faits. Et les auteurs également à se justifier. Et donc, il faut pouvoir effectivement bien comprendre les mécanismes spécifiques de ces violences pour pouvoir accompagner à une sortie des violences et en premier lieu protéger les victimes. Donc il y a ces formations qui sont faites à la prise de poste hein, des policiers, des gendarmes. Il y a ensuite des formations continues qui sont assurées et notamment côté gendarmerie, il y a la constitution d'un réseau de référents.
Combien dans l'un ? Comment ça se passe dans l'un ?
Donc, ils ont chaque compagnie de gendarmerie est dotée de au moins deux personnels référents pour les questions de violence intrafamiliale. Et puis, par ailleurs, moi, je finance également des formations qui se tiennent localement, très localement. On est allé au Oyonnax, à Belley, à Ambérieux, à Gex. On va faire bientôt Châtillon-sur-Chalaronne. Donc, des formations locales interprofessionnelles. Où là, on insiste sur le travail partenarial autour d'une victime, parce qu'une victime de violence conjugale notamment, elle a des besoins en santé, elle a des besoins sociaux, des besoins juridiques, d'hébergement. Et évidemment, ce n'est pas idéal si c'est elle qui doit pousser toutes les portes.
Donc il y a tout un faisceau de préoccupations et qui doit correspondre à un faisceau de responsabilités, de responsables pour s'occuper de ces questions.
Tout à fait. Et on se met ensemble autour de la table.
Alors, quels sont les partenaires avec lesquels vous travaillez, justement ?
Alors, les partenaires, c'est bien évidemment les services de la préfecture de l'Ain qui sont en charge de la prévention de la délinquance notamment. C'est donc le commissaire, la gendarmerie, les hôpitaux. L'an dernier, on a adopté en novembre 2021, on a adopté une convention pour la prise de plainte à l'hôpital, par exemple, pour les victimes de violences conjugales qui seraient hospitalisées, qui auraient besoin d'une hospitalisation du fait des traumatismes subis. Oui. Ce sont les forces de l'ordre qui vont à son chevet à l'hôpital recueillir la plainte. Donc les hôpitaux...
Est-ce que depuis le Grenelle des violences conjugales, il y a des prises en charge qui ont été assurées, par exemple, la possibilité de logement d'urgence pour ces personnes en difficulté ?
Oui.
Est-ce qu'il y en a d'autres sur l'Ain ? Il y a eu des renforts supplémentaires ?
On continue effectivement à ouvrir des places d'hébergement dédiées, ça c'est important. Ce sont des places d'hébergement qui ne seront occupées par aucune autre personne qu'une victime de violences conjugales. Il y en avait une vingtaine quand j'ai pris mon poste en septembre 2020. On est à plus d'une cinquantaine désormais. Et on continue à en ouvrir, et surtout on continue à en ouvrir de façon dispersée dans le département de l'Ain. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur une concentration à Bourg-en-Bresse. On crée des places dans les différentes villes du département parce qu'on veut pouvoir répondre à toutes les situations, toutes les demandes aussi des victimes. Certaines souhaitent rester à proximité de leur domicile pour ne pas déscolariser les enfants. Certaines souhaitent être mises à l'abri à distance de leur domicile. Mais en tout cas, il nous faut du coup avoir
par rapport à des cas particuliers.
Avoir un panel de solutions suffisant pour répondre à toutes les demandes.
Et est-ce qu'il y a une possibilité supplémentaire également ? Je ne sais pas, est-ce que l'éviction du conjoint peut être réalisée dans son appartement ? Comment ça se passe pour que la femme puisse reprendre place dans le foyer ?
Ça arrive, c'est un souhait parfois exprimé par les victimes. Hein. Certaines souhaitent rester dans leur domicile, d'autres souhaitent partir. Mais pour celles qui souhaitent rester, il y a une convention que le parquet a passée avec l'association d'aide aux victimes dans l'Ain, qui permet effectivement l'éviction du conjoint violent, de l'auteur des violences. À ce moment-là, c'est lui qui quitte le domicile et il est hébergé par le 115, à l'hôtel, ou alors on recherche une solution dans son environnement proche. Et peut-être à l'avenir, on est en train d'essayer de mobiliser des financements pour justement aussi créer des places d'hébergement dédiées aux auteurs qui seraient évincés et aussi avoir le même mécanisme de places qui seraient immédiatement mobilisables par les acteurs.
D'accord, en ce qui concerne les conjoints violents.
Oui.
Et donc, est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire ? Parce qu'on parle d'une société qui est peut-être patriarcale, il y a eu tout un arsenal de lois qui est très considérable en France, mais est-ce qu'il n'y a pas une éducation à faire, même par rapport à ces hommes ?
Bien sûr, à ces hommes et à ces femmes, hein, aussi pour leur redire toute la valeur de leur vie et la place qu'elles peuvent prendre. Alors, il y a une éducation qui se fait. Ça fait partie intégrante du Grenelle des violences conjugales. Hein. Parmi les mesures du Grenelle conjugal, il y avait 3 axes. Le premier, c'était sur la prévention des violences. Le deuxième, sur la protection des victimes. Et le troisième axe, sur la sanction des auteurs. Et donc, tout le volet prévention, il est déjà mis en œuvre au titre du Grenelle. Il est bien sûr porté à titre principal par l'éducation nationale. Moi j'y contribue par exemple dans le département de l'Ain avec le financement d'une association Couple et Famille qui est agréée par la préfète de l'Ain pour une mission d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle. C'est aussi une mission qui est mise en œuvre dans l'Ain par les centres de planification et d'éducation familiale du conseil départemental et également une mission mise en œuvre par le centre d'information sur les droits des femmes et des familles de l'Ain avec une mission d'éducation au respect, d'éducation à l'égalité. Et donc, avec l'ensemble de ces associations, on arrive, et l'éducation nationale, on arrive à tisser du lien entre les acteurs et à essayer de toucher le plus de jeunes possible pour montrer qu'on peut construire des relations amoureuses, affectives, saines, respectueuses, consenties, vers l'égalité.
Vous avez assisté à une soirée hier où on parlait des réseaux sociaux et peut-être de leur influence sur certains comportements des adolescents en matière de relations sexuelles.
Oui, alors c'était effectivement la projection d'un film documentaire Les Charbons Ardents qui a été réalisé par Hélène Milano et qui a été projeté à Bourg-en-Bresse dans le cadre un peu des manifestations autour du 8 mars. Et donc effectivement c'est sur... Elle interview des jeunes garçons de lycée professionnel et ils expliquent comment est-ce qu'ils se construisent en tant qu'hommes et comment le poids des normes encore associées au masculin, associées à la virilité, induisent en fait des comportements dont eux-mêmes souffrent d'ailleurs, mais ont du mal à se détacher. Ils disent bien qu'en tant que garçons, ils sont moins autorisés à se confier, à montrer leurs émotions. C'est eux qui doivent travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Il y a encore des schémas comme ça assez stéréotypés qui sont très présents dans l'éducation des garçons et qui sont aussi source de souffrance pour eux. Et en fait, c'est là où c'est important de le redire, c'est que l'égalité entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, elle est là pour libérer les femmes et aussi pour libérer les garçons. Et malheureusement, on le sait, par exemple, les chiffres de la délinquance en France sont le fait d'une majorité écrasante de garçons. On a des prises de risque à l'adolescence du fait de ces normes aussi de virilité qui sont plus importantes. Les accidents de la route sont à 80%, 85% le fait d'hommes qui prennent des risques. Donc des comportements aussi induits,
virilistes
qui mettent en danger les garçons eux-mêmes et qui produisent aussi beaucoup d'homophobie, par exemple. Voilà. Et donc c'est aussi permettre aux hommes de sortir de ces codes-là pour leur permettre de s'épanouir, eux, en tant qu'individus, et pas selon les normes que la société leur impose.
Donc c'est une action à mener tous ensemble et dans l'intérêt de tous, que ce soit les hommes comme les femmes.
Tout à fait.
Ce que vous êtes en train de me dire.
Tout à fait. C'est pour ça qu'on a besoin des hommes aux côtés de ces combats féminins et qu'on les accueille volontiers, d'ailleurs.
Bon, avant d'en terminer, vous avez aussi donc abordé le thème de la prostitution, la toile est présente également, donc... dans ces développements de circuits de prostitution. C'est également une chose du temps.
Oui, effectivement, la prostitution par Internet se développe. Elle se développe notamment chez les jeunes filles de façon inquiétante. Et donc, il y a même un plan national de lutte contre la prostitution des mineurs. Donc là, c'est côté mineur, ça va être davantage le conseil départemental de l'Ain qui va être compétent au titre de la protection de l'enfance en danger.
Se passe sur la toile et ça se passe comment en fait?
Ça se passe de la façon suivante, c'est-à-dire qu'il y a des petits réseaux qui exploitent des vulnérabilités, des situations de jeunes filles ou de jeunes femmes vulnérables, qui réservent des hôtels ou des appartements sur une courte durée, notamment à Bourg-en-Bresse, mais dans d'autres villes du département, ou alors ça peut être des annonces en direct, et donc une prostitution qui n'est plus visible dans les rues, mais qui est quand même très présente, y compris dans le département de l'Ain. et qui commence malheureusement en partie à la, lorsque les personnes, les victimes sont mineures et qui se prolonge après lorsqu'elles sont majeures. Et donc moi, mon rôle après, c'est de construire avec les associations. Il y a notamment une association dans l'Ain qui est agréée, qui est la DSEA, qui est un accueil de jour pour femmes à Bourg-en-Bresse, pour construire des accompagnements vers une insertion sociale et professionnelle de ces femmes victimes de la prostitution, de les insérer en dehors de la prostitution. Donc c'est un travail très long, pas simple, parce que souvent il y a quand même des réseaux derrière, mais l'objectif c'est de leur permettre de retrouver une vie en dehors de la violence qu'est la prostitution.
Et peut-être mettre la lumière sur une pratique qui est peu connue.
Peu connue, ouais.
Par le biais d'Internet.
Oui, par le biais d'Internet, alors... Bon, ils sont quand même qu'il y ait beaucoup d'hommes qui la connaissent, hein, qui la pratiquent.
C'était pas le terme, alors. Oui.
Mais en tout cas, qui est peu conscientisé, je vais dire.
Peu conscientisé, c'est peut-être le meilleur terme. Voilà. Ouais,
Y compris dans les pratiques professionnelles, mais qui prend. Enfin, la conscience commence à émerger, en tout cas, parce que le conseil départemental, notamment, a formé pendant 2 journées des acteurs de travailleurs sociaux, en tout cas au phénomène de prostitution des mineurs. Et il y a une émergence là, de pratiques professionnelles qui est beaucoup plus alerte et qui va peut-être aussi permettre de faire rendre visible ce phénomène-là et d'apporter des solutions aux jeunes concernés.
Alors, au-delà de ces faits, donc, ce que je retiens de ce que vous venez de dire, au-delà des lois, c'est de faire émerger les consciences.
C'est une grande partie du travail, c'est un travail qui est sans arrêt à remettre sur l'ouvrage, parce que les générations, de nouvelles générations arrivent sans arrêt, et que les pratiques aussi, voilà, avec le développement d'Internet et des réseaux sociaux aussi, les pratiques un peu se modifient, certains risques sont plus accessibles. Et donc oui, c'est une grande partie du travail, mais aussi de rendre visible l'aspect positif quand même des relations femmes-hommes. C'est aussi ça, quand même, rappeler aux jeunes que les relations amoureuses peuvent être joyeuses, libres, servir à l'épanouissement de chacun et chacune. Et ça aussi, c'est un message que j'ai à cœur de porter, parce que les violences sont présentes, hein, il n'est pas question de les nier, mais c'est aussi construire avec les jeunes un monde où chacun puisse trouver sa place.
Eh bien, c'est sur ce message joyeux et optimiste qu'on termine cette émission. Dernier mot à rajouter, peut-être ?
Merci de votre invitation et de montrer aussi le rôle que l'État peut porter aux côtés des collectivités locales, des associations, en soutien des associations, j'insiste beaucoup là-dessus. C'est elles qui sont en première ligne. Merci de cette opportunité.
Eh bien, merci à vous, Cécile Grosjean. Et à bientôt, amis auditeurs, pour une prochaine chronique.